Alors, s'agissant des religions, donc j'ai intitulé mon intervention les religions à l'école, le point de vue juridique. S'agissant donc de ces religions à l'école, ce qu'il faut comprendre, c'est que on pourrait avoir deux façons de présenter les règles juridiques sur les religions à l'école. Deux façons de le faire. La première, c'est de considérer l'école comme un espace, et donc pour ne pas complètement revenir sur ce qui va être fait après, je vous en dirai simplement quelques mots d'un point de vue juridique. Et puis l'autre solution, c'est de considérer l'école comme un lieu où des personnes se rencontrent. Et donc à ce moment-là, on prend les religions comme les religions des personnes qui se rencontrent dans cet espace. Donc ce que je pensais faire avec vous, c'est en introduction vous expliquer le point de vue juridique sur l'espace scolaire, quelles sont les règles qui s'appliquent dans l'espace scolaire, d'où elles viennent, etc. Et ensuite réfléchir aux religions des personnes, en essayant de penser toutes les catégories de personnes qui peuvent se rencontrer ou qui peuvent former, je ne sais pas si la communauté scolaire est encore un mot à la mode ou pas, mais la communauté éducative, essayer de voir quelles sont toutes les règles qui peuvent s'appliquer. Et mon objectif est ensuite de laisser un temps d'échange, parce qu'évidemment, je ne pense pas que j'aurai pensé à tous les cas qui vous intéressent. Donc si on peut garder 5-10 minutes d'échange, il me semble que ce serait pas mal. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder. Pour la fin, ça nous enrichira. Juste une petite chose, c'est que je dois partir, puisque moi j'ai cours après, j'ai cours à midi, donc je partirai après. Donc si vous avez des questions, il vaut mieux me les poser à la fin de mon intervention, puisqu'après je ne serai plus avec vous, mais Jacqueline Costa-Lascou pourra très bien répondre à toutes vos questions juridiques aussi, parce que je pense que vous avez aussi une très bonne juriste qui reste, donc qui pourra tout expliquer, y compris sur le Québec. Voilà, donc je vous ai déjà dit qu'il y avait deux approches possibles. Alors le plan que je pensais suivre, je vous l'ai aussi expliqué. Alors je vais commencer par l'introduction, donc l'espace scolaire, quelles sont les règles qui s'appliquent dans l'espace scolaire, et surtout une idée très importante, c'est que juridiquement, je vous parle ni de philosophie ni de sociologie, juridiquement c'est vraiment un espace spécifique. C'est-à-dire qu'à l'école, donc là les gens qui ont fait le niveau 1 le savent, à l'école les règles qui s'appliquent sont des règles spécifiques. On applique très peu la loi 1905. Je vous expliquerai quel est le seul article de la loi 1905 de séparation des Églises et de l'État qui s'applique à l'école. Et on applique très peu les autres textes de la laïcité. On applique les grandes lois scolaires et la forme de laïcité spécifique qu'elle a mise en place pour l'école. Donc juridiquement, en tout cas, l'école est un espace spécifique où des règles spécifiques s'appliquent. Donc je distingue ici les espaces philosophiques et l'espace juridique. Il faut savoir que juridiquement, on en est à des réflexions très importantes sur les espaces. Les réflexions ne sont pas encore abouties. Si bien que vous avez de nombreux auteurs qui vous proposent des classifications des espaces juridiques. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous en proposerez tout à l'heure. C'est pour ça que je regrette de passer après vous. Certains en proposent qui ont l'air satisfaisantes, mais qui, juridiquement, ne fonctionnent pas. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre de Patrick Vell, peut-être que vous l'avez lu, sur la République, non, qui est sorti l'été dernier, il explique que la laïcité distingue quatre espaces. L'espace privé, donc il explique que c'est chez soi. L'espace sacré, celui d'une religion. L'espace public, et l'espace républicain, celui de l'État, où là, la neutralité s'applique. Alors, cette distinction pourrait sembler vraiment satisfaisante. Effectivement, on peut distinguer l'espace privé chez soi. La religion s'applique, la liberté religieuse s'applique de manière presque absolue chez soi, sous les réserves de l'ordre public. L'espace sacré, celui d'une religion, l'espace sacré, les églises, en particulier les lieux de culte, c'est un endroit où la liberté religieuse aussi est connaît des limites très très peu importantes. L'espace public, cette fois-ci, où il faut confronter les différentes libertés d'opinion et de religion. Et puis l'espace républicain, où là, l'État se doit d'être neutre. Donc ça semble assez satisfaisant. Le problème, c'est que cela ne fonctionne pas juridiquement. Puisque juridiquement, l'espace sacré, c'est un espace public. L'espace public est bien sûr un espace public aussi. L'espace républicain est aussi un espace public. Donc ce qui fait que juridiquement, cela ne fonctionne pas. L'espace public, en droit, c'est l'ensemble des voies, des lieux qui sont ouverts au public ou affectés à un service public. Donc la plupart des espaces dont parle Patrick Vell, à part l'espace privé, sont des espaces publics. Ce qui fait que je ne peux pas me satisfaire de ce type de distinction. Donc moi, ce que je préfère pour l'instant, mais je n'ai pas encore fini mes recherches, et c'est pour ça que je suis intéressée vraiment par vos travaux, c'est distinguer pour l'instant, même si c'est pas très satisfaisant, les espaces communs et les espaces particuliers. Donc les espaces particuliers où c'est assez privé, et l'espace commun où tout le monde se rencontre et ça correspond à l'espace public pour nous. Donc l'école est un espace public juridiquement, mais un espace public où il y a des règles très très spécifiques. Donc je ne vais pas revenir sur l'esprit des lois, je reprends une expression de Montesquieu, mais je ne vais pas revenir sur l'esprit des lois scolaires, sur ce que j'ai déjà expliqué à certains d'entre vous, sur l'apport de Condorcet, l'apport de Jean Zay et de tout ce qu'ils ont fait pour que les lois scolaires aient cette forme-là. Mais je vous invite, si jamais cela vous intéresse et que vous ne m'avez jamais vu, à aller voir sur le site de l'Académie de Lyon. Il y a mon intervention sur le sujet, donc si cela vous intéresse, je vous renvoie à une autre intervention qui est vraiment très facile à trouver. Vous tapez mon nom et vous tapez laïcité scolaire et vous tombez tout de suite sur le diaporama. Alors, je vais revenir par contre sur les lois scolaires. Donc, les lois scolaires ont mis en place une forme spécifique de laïcité. Je vais vous donner trois illustrations. La première illustration, elle est évidente, c'est que la laïcité s'est faite à partir du moment où on a sorti le religieux de l'école, et cela s'est fait en plusieurs étapes. Par exemple, la loi Ferry, que tout le monde connaît, de 1882. Enfin, tout le monde connaît surtout son article premier. Hein, qui fait de la loi fait de l'école publique la rend obligatoire. Vous connaissez tous l'article premier, mais l'article 2 est un tout petit peu moins connu, mais très important s'agissant de la religion, puisque d'après cet article 2 de la loi Jules Ferry, les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche. On n'imaginait pas à l'époque que le dimanche était pour la messe, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Ce qui signifie qu'on va sortir le religieux de l'école, mais on va permettre aux familles de conserver leurs opinions religieuses si elles en ont, et en particulier de donner une instruction religieuse à leurs enfants. Comment cela ? Eh bien, en donnant un jour de plus que le dimanche pour pouvoir donner une instruction religieuse à ses enfants. Deuxième illustration, dans une loi scolaire qui pourtant est une loi scolaire un peu à part, c'est la loi de 1959, c'est la loi Debré en réalité, hein, loi sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privé. Dans cette loi, donc particulière parce que j'y reviendrai, elle met en place aussi, elle organise l'école privée, et bien dans cette loi, il est indiqué que l'État doit prendre toute disposition utile pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. Donc on sort, je vais vous expliquer comment, mais on sort le religieux de l'école, mais par contre on organise une possibilité d'instruction religieuse et le fait que la liberté religieuse des élèves doit être garantie. Donc on comprend aussi les contradictions dont vous parliez, les paradoxes dont vous parliez en introduction, puisqu'on a à la fois la nécessité de respecter la liberté d'opinion des parents, des élèves, à l'intérieur de l'école, tout en sortant ce religieux de l'école. Alors, dans le même temps, donc, on sort le religieux de l'école tout en respectant la liberté des familles, la liberté des élèves, et cela se fait avant tout par la laïcisation du personnel. Donc ça, c'est la loi du 8 août 1879 qui commence à mettre en place, donc à l'époque, une école normale d'instituteurs et une école normale d'institutrices. À la fin, je vous dirai combien il est important de respecter, de revenir aux principes fondamentaux, en particulier d'égalité des femmes et des hommes. Mais vous voyez qu'à l'époque, il y avait quand même une séparation entre les écoles normales d'instituteurs et les écoles normales d'institutrices. Mais en tout cas, en 1879, quand est mis en place ces écoles normales primaires, eh bien, l'idée est de pouvoir former en dehors de la formation religieuse des enseignants qui ne soient pas des religieux, parce que la deuxième étape arrivée, 1886, à partir du moment où on a des personnes qui sont formées de manière laïque et que on a des instituteurs et des institutrices en nombre suffisant et qui ne sont pas religieux, eh bien 1886, article 17 de la loi, dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Donc c'est à partir du moment où on peut avoir ce personnel laïque que l'on va exclusivement confier l'enseignement à ce personnel laïque dans les écoles publiques de tout ordre. C'est ici la première apparition dans la loi du terme laïcité. C'est sûr que laïcité n'apparaît pas dans la loi 1905 de séparation des églises et de l'État. Donc le premier texte législatif à évoquer la laïcité, c'est celui-ci, 1886. Et ce n'est pas un hasard, et je pense que vous devez tous en avoir conscience, l'école, la construction de la laïcité à l'école a été déterminante, je crois quand même, d'un point de vue juridique, pour la laïcité de toute la société. C'est-à-dire que c'est vraiment important de bien le comprendre, le premier terme laïcité, c'est à propos de l'école. Troisième illustration, pour vous montrer, donc j'en étais là justement, ces lois scolaires donc sont à la base de la laïcité, du moins juridique, hein, je suis pas, après il faudra réfléchir philosophiquement, etc., sociologiquement, ça sera avec d'autres personnes que vous le ferez, mais juridiquement, ce sont vraiment ces lois scolaires qui sont à l'origine de l'apparition du mot laïcité dans le droit français. Alors je sais pas si vous connaissez l'histoire, oui sûrement, parce que vous êtes tous déjà un peu formés sur la laïcité, mais c'est vrai que ce mot apparaît dans la première édition du dictionnaire de la pédagogie dirigé par Ferdinand Buisson. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un an après la loi que j'évoquais avec vous, la loi de 1886. Et c'est dans la seconde édition qu'il va vraiment commencer à le définir d'une manière particulière, il faut dire, puisqu'il explique que ce mot est nouveau. On est en 1911, hein, c'est après la loi 1905. Il explique que ce mot est nouveau et quoique correctement formé, il n'est pas encore d'un usage général. Cependant, le néologisme est nécessaire. Aucun autre terme ne permettant d'exprimer sans périphrase la même idée dans son ampleur. Désormais, dit-il, la législation française est la seule qui ait établi le régime de la laïcité d'une façon logique et complète. Laïcité de l'enseignement, laïcité du personnel enseignant. Donc, il constate que les lois ont enfin mis en place la laïcité de l'enseignement, la laïcité du personnel enseignant. Un petit mot sur lequel je reviendrai en introduction. Il faut que vous ayez conscience que peut-être que cette seconde édition du dictionnaire est aussi à l'origine d'une énorme idée reçue contre laquelle des personnes comme Jacqueline et moi-même luttons. Cette idée reçue est que la laïcité française est complètement spécifique par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. On le voit bien, la législation française, dit-il, est la seule qui ait établi le régime de la laïcité d'une façon logique et complète. En réalité, en Amérique du Sud, la laïcité scolaire était déjà très aboutie, elle ressemblait beaucoup à ce qu'il y avait en France en 1911. Je pense au Mexique, bien sûr, mais même si c'est un peu particulier, mais aussi à l'Argentine. En Argentine, bien que la société ne soit pas sécularisée, l'école publique avait des lois qui ressemblaient énormément à celles que je vous ai présentées. Donc, attention, c'est certainement Buisson, dans son enthousiasme, qui a un petit peu formaté notre esprit et laissé penser que nous étions très spécifiques, y compris dans le monde. Alors, ces lois scolaires donc sont spécifiques, je vous le disais, parce que dans la loi 1905, on évoque l'école qu'à une reprise. Le mot école n'apparaît dans les 60 et quelques articles de la loi 1905 qu'une seule fois, c'est dans l'article 2. Et alors, les lycées, collèges, écoles sont assimilés aux hospices, aux asiles et aux prisons. C'est les vieux termes, hein. Mais pour vous dire combien l'école est un lieu spécifique pour la loi 1905, pour deux raisons. Donc pourquoi est-ce qu'elle assimile aux hospices, aux asiles et aux prisons, l'école? Tout simplement parce que ça, ce sont les services publics qui étaient gérés par l'Église auparavant. Hein, les hospices, les asiles, les prisons, les écoles étaient gérés par l'Église, en particulier l'Église catholique. Ensuite, deuxième raison, ils étaient susceptibles de constituer un lieu de vie, parfois contraint pour les usagers. Les pensionnats, c'est un endroit où l'élève doit rester et il y a une certaine contrainte. Pardon pour la comparaison, mais comme l'hospice, asile, prison, puisque c'est un endroit où on va construire sa vie privée, donc on va exercer sa liberté d'opinion, de religion, etc. Mais par contre, il y a une certaine contrainte, alors plus ou moins forte, hein, selon les lieux, mais en tout cas, en 1905, ces lieux sont assimilés. Alors pourquoi sont-ils assimilés? Ils sont assimilés parce qu'en fait, ce sont les seules dérogations, à l'époque, à l'interdiction de financer les cultes. Donc, l'article 2 de la loi 1905 interdit à la République de salarier de subventionner les cultes. Mais elle va mettre en place une seule exception. Cette exception, c'est pour les lieux que je viens de vous indiquer. Elle explique qu'il est interdit de subventionner les cultes, interdit de salarier les cultes, sauf pour les dépenses d'aumônerie. Les dépenses d'aumônerie dans les établissements publics, hein, je dis bien, tels que les lycées, les collèges, les écoles, les hospices, les asiles et les prisons. Voilà. Donc pourquoi est-ce que la loi 1905 parle de l'école ? Eh bien comme une exception à l'interdiction de subventionner les cultes. Donc il faut, là encore, vous vous retrouvez dans la contradiction que j'évoquais au départ, contradiction apparente, mais on arrive hein, à s'en départir de cette contradiction-là, mais une contradiction entre, d'une part, assurer la liberté de conscience des familles, des parents, et des enfants, des élèves, bien sûr, et puis, d'autre part, eh bien, on a sorti le religieux de l'école. Mais en même temps, on a le droit, par exemple, de subventionner des dépenses d'aumônerie à l'école publique. Donc, vous voyez la contradiction. Et c'est peut-être aussi ce qui peut montrer le malaise qu'on peut avoir sur les religions à l'école parfois. Alors, la charte de la laïcité, je finis là-dessus mon introduction, mais la charte de la laïcité, juridiquement, n'a pas de valeur. Hein. Donc là, il faut bien comprendre que juridiquement, elle n'a aucune valeur. Je dis ça parce que je suis de plus en plus consultée par des gens me disant, mais qui m'invoque l'article 3 de la charte de la laïcité ou qui invoque l'article 11. Alors, tous ont quand même un fondement juridique. Hein, on peut aller les rattacher à d'autres lois, d'autres textes, de la jurisprudence aussi. Mais en revanche, elle n'a aucune valeur juridique. Donc si vous-même voulez vous référer à un texte de manière juridique, je parle pas de la charte, c'est une idée de consensus entre tout le monde. Donc vous pouvez bien sûr vous y référer, comme d'un consensus, comme d'une explication de ce qu'est la laïcité. Oui, mais en revanche, dès lors que ça va plus loin, dès lors qu'un parent vient invoquer devant vous l'article comme s'il allait faire un recours, vous pouvez déjà vous détendre en vous disant que ce n'est pas... juridiquement, la charte n'a en elle-même pas de valeur. Par contre, à l'intérieur, il y a des règles qui ont valeur juridique et qu'on peut revoir ensemble, et qu'on va voir d'ailleurs ensemble. Voilà, donc ces lois scolaires, elles créent des catégories juridiques, et donc là, moi, je vais m'intéresser, à l'école... Enfin, je dis bien sûr, mais je ne sais pas si c'est bien sûr. À l'école publique, est-ce qu'il y a des gens de l'école privée ici ? Non, pas spécialement. Donc moi, je vais m'intéresser à l'école publique ici, mais il faut aussi comprendre que la laïcité, telle qu'elle a été construite depuis 1959, il y a eu un grand virage en 1959 avec la loi Debré, c'est que désormais, ce droit de la laïcité scolaire comprend le principe de la liberté de l'enseignement et donc le fait qu'il y ait des écoles privées. C'est vraiment un tournant de 1959, mais un tournant qui n'est pas complètement incohérent avec ce que je vous disais. Toujours cette espèce de contradiction, cette exigence contradictoire, respecter la liberté d'opinion des familles et des élèves, et en même temps sortir le religieux de l'école publique. Donc comment faire ? Eh bien on crée des écoles privées, on les reconnaît, en disant que comme si on le souhaite, on peut avoir une éducation religieuse pour ses enfants, et dans le même temps... Eh bien, dans le même temps, on sort vraiment le religieux de l'école publique. Enfin, vraiment, on verra ensuite. Donc, on distingue les... on reconnaît même des écoles privées sous contrat. Vous connaissez, je pense, cela. Mais c'est vrai que moi, je vais m'intéresser donc aux écoles privées. Une autre conséquence, une autre catégorie qu'il faut avoir en tête, c'est que, bien sûr, moi, je m'intéresse aux écoles, c'est-à-dire avant l'université, puisque les lois scolaires ont aussi rendu l'enseignement supérieur libre. Alors, l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. C'est la loi 1984 qui le dit. Mais alors, il faut comprendre que rendre le service public de l'enseignement supérieur laïque veut dire que le personnel est laïque, l'enseignement est laïque. En revanche, les usagers, c'est-à-dire les étudiants, ne sont pas, en l'état des textes, soumis à une obligation de neutralité. Hein. Donc moi, je vais m'intéresser aux écoles et à leurs spécificités, puisque les écoles... au sens de la loi, hein, école, c'est école primaire, lycée, collège, lycée et assimilé. Eh bien, ces écoles-là, elles sont bien sûr spécifiques puisqu'il y a une obligation de neutralité des usagers qui ne s'applique pas à l'université. Donc, je vais passer. Voilà. Donc, moi, je vais m'intéresser plutôt aux religions des personnes composant la communauté scolaire. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici sur les sources ? Ça va ? Ok. Donc, je m'intéresse plutôt aux religions des personnes composant la communauté scolaire. Je vais commencer par les enseignants, ce qui est peut-être un peu plus connu. C'est pas en France, mais j'aimerais bien voir ça. Je sais pas si vous avez vu. Nos élèves pourraient de temps en temps faire ça. Donc, les enseignants. Je vais commencer par la question, à mon avis, la plus facile, la plus connue. Donc, je vais l'évacuer tout de suite. Mais pareil, si vous avez des questions, il y aura aucun problème. Quoique, il commence à y avoir des petits problèmes d'interprétation aussi, je pourrais vous en parler. Les enseignants, donc le port des signes religieux, la question du port des signes religieux des enseignants. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France donc applique bien sûr les lois scolaires, Mais la loi en France est subordonnée à une convention qui est la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme a un article 9 qui définit la liberté de pensée, de conscience et de religion. C'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc nos lois sont soumises, doivent s'incliner, si vous voulez, devant l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et lorsqu'il y a une divergence d'interprétation ou une incompréhension sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, comme sur les autres articles, c'est une cour qui est saisie, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui signifie que, puisque la France respecte cette convention, si la Cour européenne des droits de l'homme, un jour, censure une loi qui s'applique sur la laïcité à l'école, eh bien cette loi, le législateur devra revenir dessus, devra l'abroger, l'annuler ou la modifier. D'accord ? Donc il faut bien que vous ayez conscience que nos lois scolaires s'inclinent devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, juste pour être très très honnête, il y a des pays comme l'Angleterre qui commencent à ne plus appliquer les décisions de la Cour. On n'est pas complètement obligé de le faire, c'est juste moral, puisqu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de sanctions financières si on n'applique pas les décisions de la Cour, mais la France s'y soumet. Donc elle s'y est soumise pour la garde à vue, par exemple, pour des questions comme ça. Sur l'école, pour l'instant, la Cour a toujours validé ce qui concerne la laïcité scolaire. Et en particulier, elle a validé en 2001 la possibilité pour un État, alors là c'était la Suisse, mais ça s'applique à la France du coup, c'était la Suisse, mais la Cour a validé le fait qu'un État puisse interdire un enseignant, en l'occurrence c'était une enseignante, le port d'un signe religieux. Donc ça veut dire que notre droit de la laïcité tel qu'il est actuellement et tel qu'il interdit le port des signes religieux aux enseignants est valide du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme. D'autant plus que le 26 novembre dernier, elle a rendu aussi un arrêt, cette Cour, cette fois-ci concernant la France, concernant une assistante sociale à l'hôpital, je ne sais pas si vous avez entendu, qui portait un signe religieux, c'était le 26 novembre dernier, et cette assistante sociale estimait qu'elle n'avait pas à avoir une obligation de neutralité. La Cour a estimé que les lois françaises concernant la laïcité était conforme à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on est d'autant plus sûr depuis novembre dernier que notre droit de la laïcité pour l'instant n'est pas remis en cause par la Cour. Donc la Cour reconnaît donc qu'un État peut interdire en particulier le port du foulard à une enseignante. Alors pourquoi ? Parce que c'est limité, c'est uniquement dans son activité professionnelle. La Cour sous-entend donc qu'on ne pourrait pas, une loi ne pourrait pas interdire le port des signes religieux, y compris dans la vie privée, si vous voulez, en dehors du service. Et puis, elle reconnaît que cela peut porter atteinte aux sentiments religieux des élèves, de l'école et de leurs parents. Donc on voit bien qu'elle reconnaît le même raisonnement que celui des lois scolaires françaises. Et puis, elle ajoute que la profession d'enseignant est aussi une sorte de représentation de l'État, donc on peut admettre qu'il y ait une neutralité dans ce domaine-là, et elle admet aussi, alors là on a toute la laïcité scolaire française, même si c'est la Suisse, elle admet aussi qu'on puisse prendre en compte l'âge des élèves. Et ici c'était un bas âge, puisque c'était entre 4 et 8 ans, et elle explique que des enfants en bas âge sont plus facilement influençables que d'autres élèves se trouvant dans un âge plus avancé. Ce qui permet là encore d'être d'accord avec la laïcité française, c'est-à-dire qu'elle approuve aussi ce qui fait notre laïcité française avec cette distinction université-école pour l'instant. Donc c'est vrai que on ne risque pas la censure de la Cour européenne des droits de l'homme sur notre droit de la laïcité scolaire. Donc en France, ce n'est pas une loi spécifique de l'école qui fait que les enseignants n'ont pas le droit d'afficher leur opinion religieuse, comme leur opinion politique d'ailleurs, ni philosophique. Le fondement de l'interdiction pour les enseignants de l'école publique, c'est tout simplement qu'ils sont des agents publics. Donc comme ils sont des agents publics, on applique le statut de la fonction publique. Et ce statut de la fonction publique qui concerne tous les agents de la fonction publique, pas seulement les enseignants, ne se limite pas aux religieux. Je le dis parce que là aussi, on a de plus en plus d'affaires. Je sais, ça se tend même au niveau politique avec des personnes portant des signes qui permettent de comprendre quelles sont leurs opinions politiques et philosophiques. Donc, il en va de même de la philosophie, de la politique. Tous les agents de la fonction publique sont soumis à une stricte neutralité. Et là, c'est une idée qu'il faut que vous reteniez parce que là encore, j'ai beaucoup d'enseignants qui me disent « Ah, mais c'est pas grave, j'ai une petite croix, je porte une petite croix ». C'est une petite, c'est pas grave. Ou alors je porte, j'ai un tatouage qui montre mon appartenance religieuse, ce n'est pas grave, c'est petit, c'est discret. Non, il est très clair, et le Conseil d'État l'a plusieurs fois rappelé, que les agents de la fonction publique sont soumis à une stricte obligation de neutralité. Strict, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe distinctif, même discret, pour un agent de la fonction publique. Strict, ça veut dire que même lorsque l'agent n'est pas en contact avec le public, c'est-à-dire par exemple qu'il répond au téléphone ou qu'il est seul dans sa classe, enfin bon, cet agent-là doit être soumis à une obligation de stricte neutralité. Donc j'ajoute que ça se pose, ces questions se posent parce que en ce moment on a des affaires d'enseignants qui enlèvent le port de signes religieux, enfin qui enlèvent le voile ou la kippa au seuil de l'école. Et c'est vrai que on me dit mais il y a pas de texte. Oui, mais l'esprit de la loi, il est là. Les agents de la fonction publique doivent pas montrer leur appartenance religieuse. Et là, quand on pénètre à l'école, même si c'est sur le seuil qu'on l'enlève comme un élève, si vous voulez, là on montre son appartenance religieuse dans le cadre de ses fonctions. Donc ça ne fonctionne pas. Pour les enseignants, donc c'est à peu près clair, mais il en est de même du personnel encadrant les enfants. Donc là, je vous ai cité le seul cas qu'on a, ça n'a pas changé depuis 2009 parce que j'ai pas encore beaucoup de jurisprudence là-dessus. C'est le cas d'un surveillant. Il est quand même assez impressionnant ce cas. C'est un surveillant donc qui avait été surpris par deux fois en train de faire sa prière dans la salle de classe en compagnie d'un élève. Et ce surveillant avait donc un contrat de droit privé. Il avait été mis en garde par le recteur et puis il avait recommencé. Et ayant reconnu les faits, il a été licencié sans préavis ni indemnité par le recteur. Et donc lui contestait ce licenciement en estimant que déjà c'était disproportionné par rapport aux faits reprochés. Et ensuite qu'il s'engageait à ne plus jamais faire sa prière sur le lieu de travail. Eh bien, le tribunal administratif a admis que l'on puisse licencier sans préavis ni indemnité, même s'il s'engage à ne plus recommencer et s'il estime que que ça n'est pas disproportionné à partir du moment où on l'a prévenu et qu'il y a eu récidive. Ce qui veut dire que c'est strict, j'insiste, pour tous ceux qui encadrent les enfants. Alors, la sanction éventuelle, ça c'est le Conseil d'État aussi qui l'a précisé, si jamais un agent manifeste dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe religieux, mais pas seulement. À ce moment-là, ce que dit le Conseil d'État, c'est que les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l'administration sous le contrôle du juge. Ça veut dire qu'en fait, le pouvoir disciplinaire va pouvoir adapter la sanction en fonction des faits. Mais à partir du moment où il a fait cette adaptation en fonction des faits, la sanction peut aller jusqu'à l'exclusion, pure et simple. Donc c'est très important. Enfin, cette obligation de stricte neutralité, elle vaut pour tous les agents de la fonction publique et elle est appliquée de manière stricte. S'agissant maintenant des absences pour raisons religieuses, ne pas montrer son appartenance religieuse sur son lieu de travail ne veut pas dire que l'on renonce à sa liberté d'opinion philosophique ou religieuse. Donc, il est reconnu, bien sûr, des absences pour raisons religieuses. Alors, c'est des circulaires, en réalité. Les circulaires n'ont pas valeur juridique. Elles interprètent simplement la loi. Mais donc, ce sont simplement des circulaires. Mais depuis 1967, ces circulaires approuvent le fait que les agents puissent avoir des aménagements de leurs tâches ou des autorisations d'absence pour raisons religieuses. Donc, c'est autorisé. Mais ces autorisations peuvent être données dans un cadre qui est quand même défini par le BO, le bulletin officiel, puisque la liste des fêtes religieuses est publiée au BO et que cela ne doit pas être une fête qui n'est pas au BO. Sinon, il faut essayer de la faire reconnaître au bulletin officiel, alors par le biais du bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. Mais si on ne fait pas reconnaître, à ce moment-là, il n'y aura pas d'aménagement possible. Alors, les limites, c'est les nécessités et le fonctionnement normal du service public. Je n'ai pas de jurisprudence sur l'école publique, mais par contre j'ai pris un exemple qui vous ira quand même. Là c'est un gardien d'un office public HLM, d'une HLM. Ce gardien s'absentait toutes les semaines pendant une heure durant son service pour se rendre dans un lieu de culte. Et donc là, la jurisprudence admet qu'on ne porte pas atteinte à sa liberté religieuse en l'empêchant de s'absenter toutes les semaines à la même heure pour aller exercer son culte. D'accord ? C'est les fêtes religieuses, mais par contre, ça peut pas être toutes les semaines, à la même heure, pour pouvoir exercer le culte. Donc il y a des limites tout de même à la prise en compte de la liberté d'opinion du fonctionnaire ou de l'agent. Les élèves, peut-être que je répondrai, s'il y a des questions, je répondrai peut-être tout à la fin. D'accord ? Les élèves. Alors les élèves, c'est assez connu aussi je pense, peut-être que je reviens tout petit peu sur le contexte, 1989. En 1989, le gouvernement était un peu dépassé par le nombre d'affaires concernant les élèves et puis surtout la différence de réaction des chefs d'établissement. il y avait une différence. Il y avait des établissements dans les années 90 où on admettait le port des signes religieux, d'autres où on excluait les personnes, donc jeunes filles portant un voile essentiellement ou jeunes sikhs portant un turban, ils étaient exclus dans d'autres établissements. Donc il y avait une vraie divergence. Donc ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il a saisi, comme la Constitution lui autorise, il a saisi le Conseil d'État pour avoir un conseil justement juridique sur la laïcité. Ce qu'a dit le Conseil d'État, c'est que, en soi, le port par les élèves de signes religieux n'était pas contraire à la laïcité. Alors peut-être cela vous étonnera-t-il, mais je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que la laïcité, là je parle du droit général de la laïcité, n'interdit pas le port de signes religieux pour les usagers. C'est une erreur fréquente qui est commise dans notre société, mais la laïcité n'exclut pas, enfin les usagers ont le droit de manifester leur appartenance religieuse. Il y a des limites. L'ordre public... l'autre limite, bah, par exemple les couteaux, y a des religions où on porte un poignard, là c'est l'ordre public, donc ça c'est pas ce problème. Autre problème, autre limite, la loi. Il y a des usagers qui sont soumis à une obligation de neutralité, je pense par exemple aux jurés d'assises. La loi leur demande, même s'ils sont des usagers, d'être neutres. Voilà. Donc il y a des exceptions, mais les usagers, en règle générale, dans le droit de la laïcité, ne sont pas soumis à une obligation de neutralité. Donc c'est pour ça que le Conseil d'État, en 89, a expliqué que le port de signes religieux par les élèves n'était pas en soi contraire au principe de laïcité. Mais, disait-il, le contexte scolaire fait qu'il peut y avoir des limites encore plus importantes que pour les usagers de droit commun, si vous voulez. Alors, il ne faut pas que, à ce moment-là, la manifestation religieuse constitue un acte de pression, de provocation, de prosélytisme, de propagande. Que ça porte atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou aux autres membres de la communauté éducative, que ça compromette leur santé, leur sécurité, que ça perturbe le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants. Et enfin, il ne faut pas que ça trouble l'ordre dans l'établissement ni le fonctionnement normal du service public. Alors je suis allée un peu vite sur les limites, mais vous imaginez comme il est difficile, comme les interprétations peuvent être différentes. Est-ce que tel signe religieux est du prosélytisme ? Est-ce que tel signe religieux porte atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ? Il pourra y avoir des interprétations différentes. Donc le Conseil d'État, en rendant cet avis, loin de simplifier les choses, les a compliqués de nouveau parce qu'il y avait encore un fondement juridique pour ceux qui étaient contre le port des signes religieux et puis d'autres qui étaient pour. Donc cela n'a pas du tout arrangé les choses. Heureusement, des gens comme Jacqueline sont intervenus. J'ai pas pris ta photo à toi, mais à d'autres. Donc il y a eu l'affaire Lévy qui a été particulièrement médiatisée en 2003. Et qui a entraîné la nomination par le président de la République d'une commission. Donc, tu pourras répondre aux questions si besoin. Dont faisait partie Jacqueline. Cette commission est la commission Stasi. Et cette commission Stasi donc a rendu un rapport au président de la République de l'époque en 2003. Ce rapport, je vous engage à le lire pour ceux qui, enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, il est passionnant, en particulier sur le droit. Et donc, il y avait plusieurs propositions de la commission Stasi. Je ne vais pas revenir sur toutes, mais il y en a certaines qui m'intéressent particulièrement ici. Elle proposait d'interdire détenus et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique à l'école publique. Mais l'idée, c'était la pacification de l'espace scolaire. C'était pacifier les choses. Elle proposait une distinction entre signes religieux ostensibles, qu'elle souhaitait voir interdits, et les signes discrets, qui là pouvaient être tolérés. Donc signes ostensibles, il y avait quand même une liste, donc grande croix, voile, kippa. Signes discrets, les médailles, les petites croix, les étoiles de David, les petits courants. Il y avait aussi la main de Fatma, mais c'est pas un signe religieux, mais aussi également était cité. Et puis alors, je le dis quand même, il y avait aussi... parce que c'était quand même assez visionnaire, en 2003, la volonté d'adopter une loi sur la laïcité, mais une grande loi sur la laïcité, qui prendrait en compte l'entreprise, la création de 2 jours fériés dans les écoles publiques, le jour de Kippour, le jour de l'Aïd el-Kébir. En fait, l'idée était quand même une grande loi sur la laïcité. Mais c'est vrai que tout ce qui a été retenu, le seul point qui a été retenu, c'est ce qui a donné lieu à cet article du Code de l'éducation, c'est la loi du 15 mars 2004, qui interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. C'est finalement le seul point vraiment qui a été retenu juridiquement, je veux dire, parce que politiquement ça a beaucoup servi. Donc c'est cette interdiction-là. Alors, cette interdiction, elle est voulue, et la circulaire, encore une fois, la circulaire, ça n'a pas de valeur juridique, c'est pour interpréter, pour expliquer le droit. Donc la circulaire de 2004, qui accompagne la loi, explique bien que c'est une loi de liberté. Ça se veut une loi de liberté pour accueillir tous les enfants, qu'ils soient croyants ou non croyants, quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques. L'idée était que chacun puisse être accueilli. L'idée était aussi de lutter contre la discrimination. À partir du moment où on interdit de manifester son appartenance religieuse et politique aux élèves, il faut être intolérant contre la discrimination, sur tout ce qui est discrimination. Donc ça s'accompagnait également d'une volonté d'être très ferme et très résolue sur la discrimination, puisqu'on empêchait justement de manifester son appartenance. Donc à ce moment-là, il fallait être très ferme sur la discrimination. J'ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas du tout condamné la France. On ne savait pas très bien ce qu'elle allait faire la Cour, donc elle n'a pas condamné la loi, ce qui fait que la loi n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a eu 9 cas, et c'est les 9 cas qui sont ici. Toujours sur cette circulaire aussi, et j'insiste aussi sur le dialogue. La circulaire, donc, insiste beaucoup sur le dialogue. En cas de signe de tenue relevant de l'interdiction, la mise en œuvre de la loi doit passer d'abord par le dialogue, dit la circulaire. Alors, le dialogue, c'est vraiment aller voir la circulaire, hein, là encore, si cela vous intéresse. Il est bien expliqué que pendant ce dialogue, l'institution doit veiller avec un soin particulier à ne pas heurter les convictions religieuses de l'élève ou de ses parents. Mais ce dialogue n'est pas une négociation, vous pourrez aller voir dans la circulaire. Il explique bien, ce n'est pas une négociation. L'objectif est l'application ferme de la loi, mais d'expliquer la loi. Voilà. Simplement, on ne négocie pas. On explique la loi et on l'applique par le dialogue. Et puis la circulaire insiste aussi sur la préservation du principe d'instruction obligatoire, mais elle explique qu'il est possible d'aller jusqu'à l'exclusion de l'élève en cas d'infraction à cette loi-là. Donc si vous me comprenez bien, il y a d'un côté les enseignants qui n'ont pas le droit de manifester leur appartenance politique, religieuse, etc., mais de manière stricte, parce qu'ils sont des agents de la fonction publique, et de l'autre les élèves qui ont cette petite tolérance sur les signes discrets, tout simplement parce que ce n'est pas le même fondement. Ici, c'est la loi de 2004 et sa circulaire d'interprétation. Donc il faut bien comprendre cela. J'ajoute que, peut-être que je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais la circulaire dit bien et explique bien ce que la commission Stasi d'ailleurs disait aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de substitutif. Il ne faut pas que l'élève essaye de se substituer un signe qui d'apparence n'est pas religieux, à un autre dans le but de contourner la loi. Et d'ailleurs, les difficultés d'application de cette loi sont aussi un petit peu liées à cette nécessité d'interpréter quelle est l'intention de l'élève, puisqu'il faut interpréter si l'élève le porte comme un signe religieux, ou bien comme religieux ou politique, ou bien s'il estime que ça n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc les affaires de jupes en particulier, donc il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, c'est médiatique simplement. Les affaires de jupes, c'est assez clair. Alors je sais que c'est difficile sur le terrain, mais c'est assez clair tout de même. Si les jupes sont portées par des jeunes femmes, des jupes longues, sont portées par des jeunes femmes, en se concertant, en disant c'est pour protester contre la loi de 2004, nous voulons manifester notre appartenance religieuse, donc nous mettons tous vendredi une grande jupe longue, ce qui a été fait dans un collège. Dans ce cas-là, c'est une infraction à la loi de 2004, parce que l'objectif est de manifester son appartenance religieuse, philosophique ou politique. En revanche, bien sûr qu'il n'est pas interdit de porter des jupes longues à l'école et de garder sa tenue habituelle, mais il faut voir comment elle est portée. Si on sent que dans le lycée, dans l'école, et si on a des éléments objectifs là-dessus, qu'il y a une sorte d'organisation dans l'école... Alors, les élèves, on pourra y revenir. J'essaie de faire tout, puis après on essaie de revenir sur les points qui vous intéressent. Donc, sur les élèves, l'alimentation, qui a fait couler beaucoup d'encre cet été dans certaines mairies. L'alimentation, il y a deux principes juridiques à retenir. Sur l'alimentation, l'absence de repas de substitution n'est pas contraire à la liberté religieuse. En clair, il n'est pas obligatoire, la loi ne rend pas obligatoire le repas de substitution à l'école publique. En revanche, enfin, de même, il n'y a aucune obligation pour une commune, pour les écoles primaires, pour toutes les collectivités, il n'y a aucune obligation pour les collectivités de mettre en place des menus adaptés aux prescriptions ou aux interdits alimentaires religieux. Aucune obligation. Mais, attention, la laïcité ne l'interdit pas. Donc ce qui est malhonnête, si vous voulez, c'est de dire « j'interdis dans mon école », enfin, ou un maire qui dit « j'interdis dans les écoles de ma commune » les menus de substitution au nom de la laïcité. Il peut le faire au nom de sa conception philosophique et politique de la laïcité. Aucun problème. mais qu'ils ne disent pas que c'est le principe fondamental. Si vous voulez, ce qui est malhonnête, c'est quand on dit c'est le droit qui me demande de faire ça, je suis obligée d'appliquer la loi, ce qu'on a entendu hein, dans deux communes en particulier. Là, c'est malhonnête. En revanche, dire c'est ma conception politique et je l'applique dans ma commune, j'ai été élue pour ça, oui, ça c'est la démocratie. On est élu pour appliquer un programme. Donc oui, à ce moment-là, oui. Mais qu'on ne dise pas que c'est un principe fondamental de la République qui le demande. D'accord ? Sinon, on fait ce qui est en train de se passer en ce moment sur la laïcité, mais ce qui arrive à peu près tous les deux ans, c'est qu'on se met à mélanger le principe fondamental juridique et les interprétations politiques et philosophiques qui sont tout à fait louables et qu'il faut garder. Mais par contre, la malhonnêteté, c'est de dire que c'est du droit. Ça ne l'est pas. Pour les absences des élèves... Donc je vous ai fait un petit topo, mais pour vous dire que l'origine catholique des jours fériés, des vacances scolaires était indéniable, mais qu'il y a un vrai effort pour essayer de dégager de dégager un peu tout cela, de faire en sorte que les vacances n'aient pas forcément, enfin à part Noël, n'aient pas forcément la fête religieuse, et puis elle s'appelle plus non plus les vacances de Noël, mais les vacances d'hiver, les vacances de printemps, etc. Il y a un effort qui est fait. Si, ça y est, de nouveau, bon. En février, bon, et ben les vacances de Noël, voilà, à part Noël. Voilà. Mais pour les autres religions, printemps. Voilà. Pour les autres religions, application de la circulaire de toujours la circulaire de 2004, celle qui accompagne la loi de 2004. Donc, des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses, qui ne coïncident pas avec un jour de congé. Donc, ils ont des autorisations d'absence qui doivent pouvoir être donné. Là encore, doivent pouvoir, c'est parce qu'il y a le bulletin officiel de l'éducation nationale. C'est-à-dire que ça vaut pour les fêtes qui sont au bulletin. Et puis on peut pas, je le dis de manière humoristique, mais il y a eu un cas à Paris, on peut pas changer de religion en cours d'année. Et je ne plaisante pas. On peut pas changer de religion en cours d'année. Ça aussi, c'est prévu maintenant. Donc en revanche, et oui, conformément donc à la jurisprudence du Conseil d'État, attention, justement, c'est là la nuance. Les demandes d'absence systématiques doivent être refusées. C'est une fête, deux fêtes, mais pas plus. Les demandes d'absence systématiques, donc toutes les semaines en particulier, je pense au Shabbat, par exemple, ça revient toutes les semaines. Là, ce sera refusé. Ou prolongé, par exemple pour tout le Ramadan, c'est non. Ça doit être refusé parce qu'elles sont incompatibles avec l'organisation de la scolarité et qu'elles sont contraires à l'obligation d'assiduité scolaire. Voilà. Donc, il est vrai qu'il y a des autorisations d'absence qui doivent pouvoir être accordées, mais il y a des limites que je viens de vous rappeler. Limites, absence systématique ou prolongée, et puis abus entre guillemets, hein, quand on sent que c'est faux. Voilà. Donc, les absences pour raisons religieuses ont une implication pour l'institution scolaire et universitaire. L'université est concernée aussi. On doit prendre les dispositions pour qu'aucun examen ni aucune épreuve importante ne soit organisé le jour de ces grandes fêtes religieuses. Donc ça, c'est assez nouveau, mais le Conseil d'État l'a redit dans un arrêt Cohen en 2008, et depuis, il faut vraiment faire attention. Un examen important, déterminant pour l'élève, ne doit pas être organisé un jour de fête religieuse si vous avez quelqu'un qui a posé, qui a demandé une autorisation d'absence. Donc là, il faut faire attention parce que ça censure, hein, les juges censurent. Un examen, donc c'est un peu idiot. Les parents, maintenant, j'ai adoré le dessin, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Les parents, donc, rapidement, j'ai combien de temps encore? Quelques minutes? Oui, non? Plus beaucoup? C'est 5 minutes, on avait dit, c'est ça? 45. Alors, les parents, la loi, donc, de 2004 ne concerne pas les parents d'élèves. Les parents d'élèves sont des usagers du service public. Ils ne sont pas soumis à une obligation de neutralité. Donc, la question qui se pose, c'est les parents accompagnateurs, évidemment. Alors, il y a quelques années, voilà ce que je vous aurais dit. Il y a quelques années, je vous aurais dit, de toute façon, ils ont le statut de collaborateur occasionnel du service public. Un collaborateur occasionnel du service public, je vais peut-être vous donner la définition, c'est quelqu'un qui est requis par le service public, ou bien qui est invité par le service public, ou qui se propose pour aider le service public. Donc soit il est invité, soit il est requis, il est réquisitionné si vous voulez, soit il se propose pour aider le service public. Et il le fait à titre bénévole. Ça s'appelle un collaborateur occasionnel du service public. Alors, exemple qu'on donne dans les facultés de droit, dans une commune rurale, un feu d'artifice est tiré par la mairie, elle a besoin de monde pour tirer le feu d'artifice. Eh bien, les personnes qui vont tirer le feu d'artifice sont des collaborateurs occasionnels. S'ils se blessent avec les fusées, ils seront indemnisés comme des agents de la fonction publique. Donc c'est ça, un collaborateur occasionnel du service public, la conséquence est que s'il y a un dommage, s'il se passe quelque chose, si la responsabilité doit être engagée, à ce moment-là, il sera indemnisé comme un agent de la fonction publique. Mais il y a quelques années, je vous aurais dit, deuxième conséquence, il a une obligation de neutralité. J'aurais dit en toute bonne foi parce que les grands manuels de droit le disaient. Obligation de neutralité, il est indemnisé comme un agent de la fonction publique, donc il a des obligations. Mais cela ne fonctionne plus, il y a une évolution. Pourtant, les auteurs étaient vraiment, tout le monde était un peu d'accord, mais une évolution. 2013, donc, le Conseil d'État a évolué. Alors là, ce que j'ai derrière moi, c'est le Conseil d'État 93, qui dit bien que les parents d'élèves sont des collaborateurs occasionnels du service suivi. En 2011, ça c'est l'ancienne interprétation, 2011, un jugement tribunal administratif, comme ils sont accompagnateurs, comme ils sont collaborateurs, les parents d'élèves sont dans une situation comparable à celle des agents publics, donc ils sont neutres. Mais ça, c'était avant 2013, d'accord ? En 2013, oui, puis la circulaire de 2012, Châtel aussi, que vous connaissez tous, qui dit qu'on peut en particulier interdire aux parents d'élèves ou à tout autre intervenant de manifester ses opinions philosophiques ou politiques. Mais en 2013, le défenseur des droits a demandé un avis au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, déjà, il a dit qu'il serait bien de légiférer, parce que ça, on l'oublie toujours, mais il y a une phrase où il dit « ça m'appartient pas, c'est à la représentation nationale de décider ». Bon, passons. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que ce sont des collaborateurs occasionnels du service public, les parents, mais cela ne les place pas dans une situation comparable à celle des agents publics. Le contraire de ce qu'on disait avant, si vous voulez. La ministre de l'Éducation nationale n'a pas fait circulaire, mais elle a donné un avis public devant l'Observatoire de la laïcité. Aucune valeur juridique, mais ça, c'est votre supérieur hiérarchique, donc autant écouter. Et donc elle estime que la liberté est la règle et la restriction, l'exception. C'est une phrase célèbre en droit, hein, qu'elle a citée. Donc, jugement, plusieurs jugements. Le premier, c'est le jugement du tribunal administratif de Nice de 2015. Là, les faits n'étaient pas très clairs. Enfin, c'était autre chose. Le problème, c'était qu'une dame s'était vue refuser par la voix du cahier de correspondance de son fils de porter un voile. En fait, elle avait dit « je voudrais bien accompagner à la piscine mon enfant, mais ai-je droit de porter un voile ?» Et là, je ne sais plus si l'instituteur ou le directeur avait dit « non, vous n'avez pas le droit ». Or, là, le problème qui se posait était surtout celui de savoir de la motivation. On motive une décision de refus. Et puis on la met pas dans le cahier de correspondance, on peut le faire dans le cahier de correspondance, mais par application de tel texte. Par application, il faut une motivation. C'est surtout ça qui a été censuré à Nice. Il n'y avait pas de motivation, si vous voulez. C'était non. Alors, plus illustratif, il y en a d'autres, hein. Maintenant, dans celui d'Amiens de décembre dernier, maintenant c'est très clair, les juges administratifs, mais c'est premier degré, c'est pas encore le Conseil d'État, les juges administratifs estiment que, je sais plus où c'est, ils ne sont pas tenus, voilà. Les parents, c'est paragraphe 5, les parents ne sont pas tenus du seul fait de cette participation et en l'absence de texte particulier à une obligation de stricte neutralité. Donc en clair, ils sont libres de manifester leur appartenance religieuse ou politique. Mais chaque juridiction, et le Conseil d'État l'a rappelé aussi, rappelle bien, explique bien qu'il est possible d'interdire, mais simplement, il faut le motiver. Motiver pour des raisons d'ordre public ou de fonctionnement du service. Et pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence sur les interdictions. Sur des interdictions motivées, si vous voulez. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'y a pas encore toutes les motivations qui ont été utilisées. Mais il est certain que, pour l'instant, le principe, c'est la liberté de porter un signe religieux. Voilà. Simplement, on sait qu'on peut interdire, mais il faut motiver. Pour l'instant, je n'ai pas de jurisprudence sur les motivations. Enfin, il y a des cas, hein, mais pas des... Je n'ai pas un tribunal qui se prononce. Alors, les parents, je finis là-dessus... Enfin, toujours sur les parents, je vais finir un peu là-dessus. Les parents, donc, qui peuvent, on l'a vu, transmettre leurs opinions philosophiques ou religieuses à leurs enfants, que ce soit non religieux ou religieux, ils peuvent le faire par le biais du mercredi après-midi, du jeudi après-midi, du samedi, puisque c'est un jour qui, selon la loi, est fait pour donner l'instruction religieuse aux enfants. Il y a tout un débat sur l'aumônerie à l'école. J'aurais pas le temps de revenir là-dessus. Mais le droit applicable actuel, c'est que il est possible, c'est la loi 1905, de financer l'aumônerie à l'école publique, y compris donc dans les internats publics, mais aussi dans les externats, sauf à l'école primaire. Au-delà de l'école primaire, on peut... La loi autorise un financement de l'aumônerie dans une école publique. Je finis là-dessus. Les autres cas rapidement. Eh bien, les autres cas, un exemple, les candidats libres aux examens qui se déroulent dans les établissements scolaires publics. Eh bien, comme dans tous les autres cas, il faut réfléchir à la qualification. S'ils ne sont pas des usagers, ils vont être soumis à l'obligation de neutralité. S'ils sont usagers, à ce moment-là, pas de neutralité. Il faut vraiment que vous réfléchissiez en termes de qualification, usagers ou pas. Bon, ça veut dire que par exemple, pour les candidats libres aux examens, ils ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité. Alors, je suis d'accord, ça pose des vrais problèmes. Hein. La loi, c'est pas parce que... Hein, la loi pose des problèmes, parce qu'il y a des problèmes d'égalité. On va avoir un qui a un signe religieux, l'autre qui ne l'a pas. Enfin, c'est à l'expliquer. Ensuite, deuxième problème, c'est que c'est vrai que ça conduit à des explications. Enfin, c'est vraiment compliqué dans la pratique. Mais ils doivent aussi quand même se soumettre aux règles d'organisation de l'examen. En particulier sur la vérification de l'identité, il peut y avoir à enlever le signe religieux pour la vérification. Mais ils ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité, parce que ce sont des usagers. Donc, conclusion, est-ce qu'il y a une singularité française ? Réponse, oui et non. Oui, indéniablement, sur le port des signes et tenues à caractère religieux. C'est indéniable que c'est une singularité française. Que ça s'applique comme ça sur tout le territoire, dans toutes les écoles, c'est très spécifique. Il y a de nombreux autres États laïcs, mais les États laïcs ne se dotent pas de cette, pour l'instant, n'ont pas cette législation-là, que ce soit en Amérique du Sud, en Turquie, il n'y a pas cette législation à l'école. Donc oui, de ce point de vue-là. Pour le reste, non, parce qu'il y a beaucoup de législations qui sont beaucoup plus strictes en France sur d'autres points. Par exemple, sur le financement des écoles privées confessionnelles, aux États-Unis, il est interdit à une collectivité publique d'utiliser des fonds pour financer des manuels scolaires s'ils risquent d'être utilisés par quelqu'un qui est à l'école privée. De même, il faut savoir qu'aux États-Unis, comme le territoire est grand, il n'y a pas des écoles partout, les municipalités donnent ce qu'on appelle des vouchers, des bons, pour les parents, pour qu'ils puissent payer l'école à leurs enfants dans une autre commune. Si ça risque d'être utilisé pour une école privée, ils n'ont pas le droit aux vouchers. Alors que pourtant, c'est une obligation scolaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très, très strict. Pas de financement des écoles privées confessionnelles. Et les mêmes questions juridiques se posent ailleurs. L'interdiction du crucifix à l'école en Italie. Dans les écoles britanniques, on se demande si on va pas vers une interdiction générale du voile intégral, où il y a une faute, du voile intégral dans les écoles publiques. Bon, c'est pas la même chose que nous, mais c'est quand même déjà un pas. Et puis, au Canada, au Québec, il y a l'arrêt École Loyola contre Québec, sur lequel j'aurais bien aimé revenir, mais peut-être que quelqu'un y reviendra dans cette journée-là. Eh bien, c'est une école privée qui s'était opposée à un enseignement qui s'appelle éthique et culture religieuse et qui veut que dans toutes les écoles du Québec, enfin du Canada, il y ait un enseignement, ça vous dira peut-être quelque chose, du fait religieux, mais de manière la plus neutre possible. Et cette école catholique s'y était opposée pour l'enseignement de la religion catholique. Elle a obtenu gain de cause devant la Cour suprême du Canada, qui a dit qu'on pouvait pas, quand on était catholique et une école confessionnelle catholique, enseigner la religion de manière neutre. Voilà. Mais j'aurais bien aimé vous en parler plus, mais le temps est écoulé. Et si vous avez des questions dans les quelques minutes qui nous restent, n'hésitez pas.